britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940.
Les discussions sur le droit d'asile ont abouti à un résultat fort voisin dans l'article 14. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions sont toutes différentes.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Le Parlement a été, ce mois-ci, saisi d'une loi concernant la réforme du droit d'asile. Voilà une question qui touche au cœur même des principes républicains depuis que la Constitution révolutionnaire du 27 juin 1793 a stipulé dans son article 120 que le peuple français doit, je cite, « donner asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté » et qu'il le refuse, en revanche, aux tyrans. Ce devoir autoproclamé a été réaffirmé dans le préambule de la Constitution de 1946 qui est toujours en vigueur. Même si les chiffres nous disent que le droit d'asile, entendez, d'asile politique, ne concerne qu'environ 5% de la population immigrée, on mesure sans peine l'importance essentielle du débat qui est repris aujourd'hui. Importance essentielle à la fois pour tous ceux qui sont concernés, cela va sans dire, et dont le nombre aurait augmenté de 35 000 en 2007 à près de 70 000 en 2013, mais aussi en termes symboliques pour l'image de la France dans le monde et l'idée qu'elle peut se faire d'elle-même. Le projet de loi présenté par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve s'attache à réduire le processus d'examen des demandes et à faire mieux accueillir tous les demandeurs. Et enfin, ce point est d'ailleurs contesté par plusieurs syndicats de la magistrature, à renforcer les droits des personnes concernées. Le XIXe siècle, dans sa première moitié, depuis la Révolution jusqu'au Second Empire, différait d'une autre, assurément, de bien des façons quant au tumulte de la planète et à la circulation des hommes. Pourtant, on constate sans trop de surprise que s'y posaient déjà bien des questions politiques et morales que peut susciter le droit d'asile aujourd'hui. Mon invité, Delphine Diaz, maître de conférence à l'Université de Reims Champagne-Ardenne, s'est attaché à cette période et ses travaux donnent à réfléchir sur l'exercice souvent incertain de cette fragile générosité.
J'ai deux bracelets d'acier qui entravent mes bras, le bruit des bottes qui résonne, mon père a connu ça. Frapper à des portes en fer qui ne s'ouvrent pas, parler à des gens trop fiers qui ne me voient pas. Plus rester, plus partir, plus rêver, on finit naufragé, solitaire, barbelé aux frontières. Capitale douceur Paris, je dormais dans tes bras. Capitale violence aussi, je ne te reconnais pas. Toi Paris, ma beauté fatale, symbole de la France, je me suis fait casser normal par ton indifférence. Plus rester, plus partir, plus rêver, on finit naufragé, solitaire, exilé, volontaire. Thank you. ciel bas de novembre encore pose ses mains sur moi. Bout de fer et de cendre, la mort, je n'aime pas ce mois-là. La liste des droits de l'homme, la mélancolie, juste un homme parmi les hommes, tout seul dans Paris. Plus rester, plus partir, plus rêver, on finit naufragé, solitaire, exilé, volontaire.
Delphine Diaz, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai proposé, l'orée de notre conversation, L'Exilé, une chanson de Bonga et Bernard Lavilliers, interprétée par Bernard Lavilliers en 2010. Et j'ai le goût de vous poser d'abord une question, comme nous disons dans notre corporation, une question d'égo-histoire. Vous vous appelez Diaz, vous-même vous descendez d'immigrés politiques en France ?
Oui, je suis une petite fille de réfugiés républicains espagnols qui se sont rencontrés en France dans un camp de réfugiés.
À quel moment ?
En 1939. C'est cette dimension de mon histoire personnelle, familiale, m'a donné aussi envie de remonter dans le temps et puis de m'intéresser aussi aux conditions d'asile qu'ont pu connaître des étrangers venus pour motifs politiques en France au XIXe siècle.
Il est toujours intéressant de savoir quels sont les ressorts de la recherche, d'où cette question indiscrète. Mais nous allons naturellement élargir au-delà de votre personne notre curiosité à l'ensemble de ceux qui sont arrivés au XIXe siècle en France. Peut-être faut-il dire aussi d'entrée de jeu que, parlant de ceux qui sont venus chez nous pour chercher le droit d'asile, on pense aussi à ceux qui se sont exilés, notamment sous le Second Empire. Il y a d'ailleurs un livre de Sylvie April qui est au fond le symétrique de votre recherche à vous, c'est-à-dire l'exil des Français au dehors. Je citerai volontiers Victor Hugo en 1853 en me disant que beaucoup de vos personnages pourraient reprendre en sens inverse ces paroles dans le poème Ultima Verba, vous savez, qui se termine par le fameux vers « Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là ». Je ne reverrai pas ta rive qui nous tente, ô France. Or, le devoir, hélas, j'oublierai tout. Parmi les éprouvés, je planterai ma tente. Je resterai proscrit, voulant rester debout. Vos proscrits, étrangers venus en France, c'est souvent parce qu'ils ont voulu rester debout.
Oui, ils ont voulu rester debout. Alors, ils ont plusieurs motifs de venir. Hein. Ils viennent parce que parfois, ils ont été condamnés à des peines judiciaires. Et également, ils viennent aussi parce que parfois, ils se considèrent comme des exilés volontaires qui ont pris le parti d'échapper, par exemple, à la censure politique, à la censure littéraire pour trouver refuge en France qui est perçu comme un pays plus libéral en matière d'expression politique.
Il y a un problème de vocabulaire. Est-ce qu'on doit parler de proscrits, d'exilés, de réfugiés ? Les frontières entre ces différents vocables sont assez floues à l'époque, non ?
La question du vocabulaire est très importante parce qu'on voit en fait à la fin du XVIIIe siècle, si on regarde un petit peu les encyclopédies, les dictionnaires de l'époque, quand on parle d'exilés, quand on parle de réfugiés, on ne se réfère pas forcément à ceux qui viennent en France s'installer pour des raisons politiques et qui viennent de l'étranger. En effet, si on se réfère par exemple à l'article « Réfugiés » de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui sont les réfugiés auxquels on pense spontanément en parlant de réfugiés ? Eh bien, on pense aux Huguenots, venus s'installer ensuite, par exemple en Grande-Bretagne, en Hollande, après la révocation de l'édit de Nantes.
Ceux qui sont partis, donc.
Donc ceux qui sont partis. On ne s'intéresse pas initialement à ceux qui arrivent en France. Et on va avoir en fait un changement de référent dans le vocabulaire de l'époque au cours du premier 19e siècle où on voit peu à peu les dictionnaires, les encyclopédies de l'époque proposer une nouvelle définition du réfugié comme un étranger qui vient en France s'installer pour des motifs politiques.
J'observe que dans une lettre du ministère de l'Intérieur à la préfecture de la Haute-Garonne en avril 1838, que je trouve dans votre livre, comme épigraphe, votre livre « Un asile pour tous les peuples » Delphine Diaz, je vois cette citation « On ne peut considérer comme réfugiés les individus qui viennent pour se perfectionner dans quelques métiers, ceux que la misère a obligés de quitter leur pays, ni ceux qui sont venus prendre les eaux et ou qui sont attirés en France par le plaisir de voyager. Ceux-là, ils ne sont pas des réfugiés. Les autres, alors ce sont qui ?»
Cette citation montre le flou de la catégorie, hein, le flou de la catégorie encore à cette époque, puisque certains vont effectivement se faire passer pour réfugiés alors qu'ils viennent pour des motifs plutôt de loisirs, dirait-on, ou de voyage, de tourisme, hein, pour reprendre un terme qui se popularise à cette époque. On essaye effectivement de mieux distinguer les étrangers selon les différentes catégories auxquelles ils pourraient appartenir. Et le réfugié va de plus en plus être défini comme un individu venu pour des motifs exclusivement politique, idéologique, même si on verra que c'est extrêmement difficile, hein, de faire la part des choses entre ces motivations politiques et des motivations familiales, économiques, etc. Donc le réfugié doit être venu pour des motifs politiques, il doit aussi avoir coupé les ponts avec son pays d'origine et il doit enfin dépendre d'une assistance financière de l'État qui l'accueille, à savoir la France. Ce sont finalement les trois conditions qui vont de plus en plus être posées pour la définition du réfugié dans les dictionnaires administratifs de la deuxième moitié du siècle. Donc on voit que c'est vraiment au début de ce siècle-là que la définition se pose peu à peu.
En particulier dans le grand dictionnaire universel de Pierre Larousse qui est publié à cheval entre la fin du Second Empire et les débuts de la Troisième République.
Oui, dans ce grand dictionnaire universel, on a effectivement plusieurs articles intéressants, notamment un article exil qui nous renvoie cette fois-ci non plus à l'exil des Huguenots, comme c'était le cas très souvent, hein, au siècle précédent, mais cette fois-ci qui nous renvoie directement dans son texte, hein, à ces exilés italiens qui ont voulu secouer la tyrannie des Bourbons et des Habsbourg, qui nous renvoie également à ces exilés espagnols, hein, qui ont fui la réaction despotique, ou encore à ces exilés polonais qui relèvent de la grande émigration polonaise.
Ces exilés, ces réfugiés, ces proscrits venus en France, comment les connaît-on? Quelles ont été vos sources pour vous informer?
Alors les sources sont multiples, abondantes. On a effectivement d'abord tout ce travail lexical qu'on peut effectuer à travers les dictionnaires, les encyclopédies, les lexiques juridiques. On a également des sources policières qui sont également très abondantes sur la question de l'accueil d'un exil étranger, complétées par des archives départementales et qui permettent d'avoir un contrepoint très utile. On a également, j'ajoute, hein, les sources diplomatiques qui permettent aussi de saisir les enjeux internationaux que posent ces flux d'exil. Et là aussi, bien sûr, la dimension internationale s'impose aussi aujourd'hui, hein, pour comprendre cette crise de l'asile.
Au XVIe et encore au XVIIe siècle, on avait une conception, vous évoquiez les Huguenots, assez religieuse de l'exil politique. Et puis cela a évolué à la fin de l'Ancien Régime.
Alors, à la fin de l'Ancien Régime, on est encore dans une conception de l'asile comme un bienfait, hein, temporaire octroyé par le souverain. Et c'est ce qu'on voit notamment avec l'accueil des réfugiés hollandais qu'on appelle les patriotes, hein, qui constituent un exode de plusieurs milliers de personnes à la fin de la monarchie de Louis XVI. Bienfait temporaire et peu à peu, une nouvelle conception va se dessiner sous la Révolution française. Donc la conception, bien sûr, qui est proposée en particulier par la Constitution montagnarde que vous avez citée en introduction, donc celle de 1793.
Et qui vaut toujours aujourd'hui.
Puisqu'elle a été en partie reprise par le préambule de la Constitution de 1946, qui encore fait partie du bloc de constitutionnalité.
Donc, y compris sous la Ve République.
Comment
peut-on apprécier les nations d'origine de ces réfugiés en France dans votre premier 19e siècle, cette période que vous avez étudiée?
Ces nations, en fait, vont se diversifier peu à peu. Sous la Restauration, on a un exil qui provient essentiellement de l'Europe méridionale.
1815-1830.
Voilà, 1815-1830, donc surtout un exil méridional. D'abord un exil espagnol, un premier grand exode espagnol, hein, en direction de la France, qui commence en fait dès l'année 1813-1814. Avec l'exil de ceux qu'on appelle les Joséphins.
Pourquoi les Joséphins? Rappelez-nous, c'est à cause de Joseph, le roi, le frère de Napoléon.
Oui, c'est ceux qui ont soutenu le roi Joseph Bonaparte et qui sont du coup invités à quitter l'Espagne à partir du printemps 1813.
Ils apparaissent comme des collaborateurs aux yeux des rois revenus au pouvoir.
Ils apparaissent comme des collaborateurs et ils sont malgré tout accueillis par la France de Louis XVIII, qui pourtant n'a pas de dette politique à leur égard, à l'égard de ses partisans d'un Bonaparte.
Donc, venus du sud, les Espagnols, il y a aussi les Portugais.
Les Portugais, essentiellement à la fin de la Restauration, À partir de 1829, ce sont des libéraux. Hein, et entre-temps, on a également des flux un peu plus discontinus en provenance à la fois d'Espagne et de la péninsule italienne, constitués d'exilés libéraux qui arrivent un petit peu au compte-gouttes. Donc c'est un exode moins massif, si vous voulez, mais constitué d'une centaine de personnes systématiquement qui sont accueillies avec mauvaise grâce par le régime de la Restauration.
À partir du moment en particulier où... où la monarchie de la Restauration française a envoyé une expédition pour rétablir, après un moment bref de libéralisme, pour rétablir la dynastie espagnole sur son trône.
Oui, pour rétablir l'absolutisme en 1823. Hein, et là, cette fois-ci, on a, à destination de la France, un flux de prisonniers espagnols qui s'installent en France. Et une petite partie d'entre eux va demander également l'asile à la France à l'issue de leur période d'emprisonnement.
Ça annonce déjà l'arrivée, nous l'évoquions en commençant à propos de votre grand-père, Delphine Diaz, l'arrivée des républicains espagnols en 1939-1940.
D'une certaine façon, oui, effectivement, il y a des échos importants entre ces deux périodes.
Donc, des Espagnols, des Italiens, des Grecs, et puis ensuite, arrivés d'émigrés venus au contraire de l'Est.
Oui, la monarchie de Juillet, en fait, va instaurer une diversification importante des origines géographiques. L'Europe de l'Est, l'Europe centrale, va être beaucoup plus représentée à travers un exil allemand, à travers un exil polonais.
Puisque la grande émigration, a-t-on dit, pourquoi ?
La grande émigration, alors c'est un terme qui a été forgé par l'historiographie polonaise pour mettre en avant également la dimension patriotique hein, de cette émigration. Grande émigration d'abord parce qu'elle est grande en termes quantitatifs. Hein. Il faut bien voir que pour l'époque, on a des flux considérables. À destination de la France, on estime aujourd'hui qu'on est aux alentours de 7000, 8000 personnes qui s'installent dans la France de Louis-Philippe à partir de 1831-1832. Et puis grande aussi parce que en son sein, il y a effectivement certains héros hein, de l'indépendance polonaise, dont par exemple Adam Mickiewicz, dont on aura l'occasion peut-être de reparler.
On est déjà dans l'état d'esprit qui sera celui des grands juristes de l'après-Seconde Guerre mondiale, quand on a réussi à faire porter à hauteur internationale, dans le cadre de l'ONU en particulier, des réglementations concernant les réfugiés, les apatrides. Je pense ce que René Cassin, notre grand juriste, qui a joué le rôle que nous savons dans l'élaboration de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce qu'il a pu introduire comme prescription internationale sur le droit d'asile. Il en parle lui-même en février 1949, sur la radio d'État, l'heure de culture française.
Les discussions sur le droit d'asile ont abouti à un résultat fort voisin dans l'article 14. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux principes et aux buts des Nations Unies. Voilà un grand progrès que la proclamation du droit d'asile des persécutés. La France, qui a inscrit ce droit dans sa constitution et qui souvent donne refuge à des persécutés de pays voisins, aurait cependant été heureuse qu'on alla plus loin, qu'on détermina le débiteur de l'obligation de fournir asile et aurait voulu qu'on déclarât les Nations Unies tenues en accord avec les États membres de procurer l'asile aux persécutés. Malheureusement, les nations éloignées des lieux volcaniques n'ont pas peut-être le désir de supporter leur part des charges du refuge, et malgré la générosité des puissants de l'Amérique latine, je n'ai eu que 12 voix pour mon texte. Je ne veux pas quand même le sous-estimer, car l'Organisation internationale des réfugiés, agence spécialisée des Nations Unies, va avoir une base incomparablement plus forte que par le passé.
Nous avons là les grands principes qui fondent notre droit d'asile aujourd'hui en France, qui font rebondir en tout cas ce droit d'asile longtemps après la Grande Révolution de 1789. Déjà, au temps de la Société des Nations, on avait progressé dans cette direction. Je pense à ce fameux passeport Nansen du nom de l'explorateur du pôle qui ont permis à beaucoup de victimes de la Première Guerre mondiale, les grands mouvements de population, de trouver une situation un peu moins mauvaise.
Le passeport Nansen est effectivement une des premières tentatives hein, de donner un papier à ces apatrides venus d'abord hein, de Russie, mais également ensuite on va élargir la possibilité de donner ces passeports à d'autres nationalités. Alors, ce qui est important, c'est effectivement dans ce discours de René Cassin, c'est qu'on est vraiment à la veille de l'élaboration de la Convention de Genève. On est 2 ans avant la Convention de Genève.
1951,
qui va poser la première définition internationale du réfugié. Il faut bien voir qu'à l'époque, que j'ai étudiée, on en est encore bien loin de cette définition internationale du réfugié. On a du mal déjà à, à élaborer une définition nationale.
Mais de fait, c'est ce qui se déjà au XIXe siècle. Les différents critères qui permettent de définir les réfugiés, je pense, aux nationalités, qui peuvent être en tant que telles opprimées, il y en a beaucoup dans l'Europe centrale. Je pense naturellement aux oppositions politiques, au moment des diverses révolutions, avec le printemps des peuples de 1848. Je pense aux groupes sociaux qui peuvent être opprimés en tant que tels. Et puis, bien sûr, il y a la religion, qui est également un critère discriminant dans bien des lieux.
Oui, en particulier la religion catholique, qui va aussi être utilisée par les réfugiés polonais comme un argument pour justifier la répression dont ils font l'objet.
Il y a des variations dans la qualité de l'accueil à l'époque qui annoncent déjà celle d'aujourd'hui. Il peut y avoir une variation liée aux interventions internationales de la France elle-même. On le voit en Espagne, nous citions ce cas tout à l'heure. Il peut y avoir aussi des régimes qui sont idéologiquement plus proches de l'esprit français, la Restauration d'abord, la Monarchie de Juillet, puis ensuite la Révolution en 48. Puis il y a parfois une affinité qui peut se fonder sur une longue culture de relations entre ce pays d'origine et le nôtre.
Les variations sont importantes pour comprendre cette évolution de l'asile et cette évolution aussi de la justification de l'asile. Comment on va justifier le fait qu'on accorde ce droit d'asile à un ensemble d'étrangers venus pour motifs politiques? Ça change dans le temps. On voit que sous la Restauration, on est plutôt dans une justification qui se fonde sur l'argumentaire d'une bienfaisance chrétienne, du respect d'un principe de charité chrétienne à l'égard de malheureux qui ont tout perdu.
Ce qu'avait écarté la Révolution, naturellement, de 89, 92, 94.
Bien sûr, oui. Donc c'est un argumentaire qu'on retrouve sous la Restauration. Puis ensuite, sous la Monarchie de Juillet, on va avoir un autre argumentaire qui va se dessiner, en particulier parmi la gauche, l'extrême gauche, qui va reprendre, bien sûr, les fondements énoncés par la Constitution de 1793, l'idée que l'asile est avant tout un devoir politique.
Charité chrétienne d'un côté, soutien politique de l'autre.
Soutien politique de l'autre. Et ces deux argumentaires, finalement, sont convoqués par les hommes de la Monarchie de Juillet, tour à tour et selon bien sûr les bords politiques, pour justifier ce devoir d'asile.
Sur la charité chrétienne, on peut citer un texte tout à fait topique, les paroles d'un croyant de Lamennais, 1834. J'en extrais cette citation. « Il s'en allait errant sur la terre, que Dieu guide le pauvre exilé. J'ai passé à travers les peuples et ils m'ont regardé et je les ai regardés et nous ne nous sommes point reconnus. » L'exilé est partout seul. Ses arbres sont beaux, ses fleurs sont belles, mais ce ne sont point les fleurs ni les arbres de mon pays. Ils ne me disent rien. L'exilé partout est seul. Il n'y a d'amis, d'épouses, de frères et de pères que dans la patrie. L'exilé partout est seul. Il s'en va errant sur la terre. Que Dieu guide le pauvre exilé. Là, c'est le versant charitable.
Versant charitable, versant aussi en partie idéologique, puisque Lamennais va apporter son soutien à la cause polonaise, à la fois pour des motifs religieux et politiques.
Et en face, le sentiment du devoir de solidarité, qui est aujourd'hui central dans les préoccupations qui occupent la France et qu'on voit ressurgir à l'occasion de cette discussion du projet de loi.
Oui, la question de la charité à l'égard de ces étrangers malheureux est aussi finalement un motif récurrent des discours parlementaires, des discours politiques qui émergent en ce moment à la faveur de cette discussion du projet de loi portant réforme du droit d'asile.
Sur le passage du souci de solidarité chrétienne à la préoccupation politique, un exemple, une citation que j'emprunte à Louis Guillou, vous savez, le grand romancier breton du sang noir. Louis Guillou qui a écrit un livre à la fin de sa vie qui s'appelait Solido, où il évoque un émigré espagnol. Voilà la manière dont il en parle. C'est un entretien au micro de Patrice Galbeau en 1977 à propos des réfugiés espagnols.
Solido, c'est l'histoire de ces réfugiés espagnols qui est arrivé en Bretagne avec une formation d'une soixantaine de blessés des dernières batailles de la guerre d'Espagne, c'est-à-dire les batailles qui ont eu lieu sur l'Ebre. Blessés légers, et donc, n'est-ce pas, Ils étaient là à l'hôpital, dans la partie de l'hôpital civil qui était réservée aux militaires. Et naturellement, on y allait tous les jours pour leur porter ce dont ils avaient besoin, c'est-à-dire du savon, c'est-à-dire du tabac, c'est-à-dire enfin les choses dont les hommes peuvent avoir besoin. Au milieu de tout ça, il y en avait un qui s'appelait Salido, c'était son nom, et qui m'a dit un jour, écoute, je ne veux pas aller dans un camp, ils vont nous renvoyer dans un camp, et je ne veux pas y aller, alors tire-moi de là. Eh bien, naturellement, on a fait ce qu'il fallait. On l'a fait sortir de l'hôpital, lui n'avait pas le droit de sortir. Lui, il aurait pu sortir facilement, c'était pas une prison quand même. Et on l'a hébergé, caché chez des copains, enfin, pendant quelque temps. Seulement, voilà, c'était pas très commode quand il m'a dit, maintenant, je veux aller à Moscou, n'est-ce pas ? Alors, il dit, tu veux aller à Moscou ? Bien, mais ça, alors, ça ne regarde pas. Il faut demander au gars du parti. Et les gars du parti s'attardaient, etc. Les réponses ne venaient pas. Alors, on a décidé qu'il a voulu lui-même aller régler ses propres affaires à Paris. Et il est allé. On lui a donné les moyens, on l'a fait accompagner. Mais la bonne femme qui l'accompagnait, elle s'est perdue et ils sont revenus. Et alors là, arrêté et foutu en taule. Des gars qui avaient fait toute la guerre, qui avait transporté les armements de la guerre républicaine en France, qui étaient des soldats aguerris, non ? Qui auraient fait une légion étrangère magnifique contre Hitler. Eh ben non, on les a foutus dans des camps de concentration.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Alors Delphine Diaz, voilà un cas qui est assez topique.
L'entretien se conclut par « on les a foutus dans des camps ». Donc la question, c'est effectivement de savoir comment on va interner ces réfugiés qui sont parfois considérés comme des perturbateurs aussi de l'ordre public. Comment on va les interner ? Comment on va finalement les inviter à se domicilier en France ? Comment on va les diriger dans différents départements français ?
Au XIXe siècle, il y a déjà ce qu'on appelle les dépôts,
oui,
qui correspondent bien à ce type de regroupement forcé dans différentes régions de France.
Les dépôts de réfugiés, c'est effectivement un petit peu l'ancêtre des camps de concentration qu'on va utiliser, hein, par exemple pour accueillir les Espagnols, hein, puisque je rappelle que 350 000 Espagnols, hein, sur les 500 000 accueillis en France, hein, ont vécu dans des camps de concentration à un moment ou à un autre. Mais en revanche, c'est vrai que ces dépôts qu'on peut observer pour le premier 19e siècle sont bien des lieux d'internement à certaines périodes de l'histoire française, mais ils fonctionnent de manière tout à fait différente malgré tout, hein, d'un camp de concentration, il faut bien le dire.
On regroupe les nationalités, c'est un principe à l'époque.
Le principe est effectivement d'essayer de regrouper les nationalités dans des dépôts séparés. C'est-à-dire qu'on veut à tout prix éviter qu'il y ait à la fois des Espagnols, des Portugais, des Polonais ensemble, par peur d'une contagion politique par-delà les nationalités.
Il faut rappeler qu'il y a à peu près 1500 Italiens en 1831 et 5000 Espagnols qui constituent précisément,
oui,
des groupes.
Oui, en 1831, on a effectivement une prédominance de ces groupes d'Italiens et d'Espagnols. Et avec l'arrivée de la grande émigration polonaise, la question de l'internement se pose de manière très aiguë, hein, pour les autorités françaises. Comment on va les accueillir ? Et le but, c'est de créer ces dépôts dans des zones rurales, si possible éloignées des frontières, hein, si possible au centre de la France, donc dans des zones a priori, finalement, qui n'étaient pas des zones d'immigration jusque-là.
Et éloignées de Paris, éloignées de la capitale, où on craint éventuellement des mouvements qui soient plus ou moins subversifs.
Éloignées de Paris, c'est un principe qu'on va en fait adopter, hein, dès le début du XIXe siècle, mais qu'on va formaliser à partir de 1831, hein, où on va chasser, essayer de chasser les réfugiés de la capitale, à la fois pour des craintes d'ordre politique, mais aussi des craintes d'ordre sanitaire. On a peur que ces réfugiés amènent avec eux des épidémies. Hein. C'est le cas notamment avec la grande épidémie de choléra, hein, qu'on va aussi attribuer en partie à ces réfugiés polonais venus de l'Est.
Pour l'instant, je n'ai pas le sentiment que ce soit une préoccupation majeure en France quand on considère les immigrés, ceux qui sont là pour des raisons politiques. Pour l'instant.
Non, ça n'est pas une préoccupation majeure, mais en revanche, on retrouve dans les débats actuels sur le projet de loi portant réforme du droit d'asile, on retrouve finalement des choses anciennes, hein, qu'on peut noter, c'est-à-dire qu'on veut essayer de disperser ces réfugiés, d'éviter qu'ils soient concentrés dans la capitale. Je rappelle que l'un des constats qui a été fait, hein, dans la préparation de ce projet de loi, c'est de dire que 45% des demandeurs d'asile se regroupent dans la région parisienne. Et le but avoué de cette réforme est aussi finalement de les disperser dans des zones rurales. Hein. Je reprends le terme qui est employé hein, dans le projet de loi.
Le rebond avec le 19e siècle est tout à fait notable.
Oui, tout à fait notable, puisque le but ce serait de créer plus de centres d'accueil de demandeurs d'asile dans des départements a priori éloignés hein, des grandes métropoles, donc que ce soit la métropole parisienne ou l'agglomération lyonnaise.
Alors, puisqu'il y a des échos que nous mettons en lumière, évidemment, spécialement dans cette émission, j'ai envie de vous attarder un instant sur la grande loi de l'époque, dont le rapprochement avec aujourd'hui est intéressant, la loi de 1832. Au début de la monarchie d'Juillet, au début de l'accession de Louis-Philippe au pouvoir, on se préoccupe pour la première fois de légiférer un peu systématiquement. Pouvez-vous nous rappeler ce qui s'est passé à ce moment-là ? On regarde aujourd'hui.
En avril 1832, on adopte la première grande loi sur ce qu'on appelle alors les étrangers réfugiés. Le terme de réfugié n'est pas encore utilisé finalement comme un substantif. Première grande loi qui emploie ce terme dans son intitulé même, mais qui malheureusement pour nous, hein, pour l'historien mais aussi pour les contemporains, ne définit pas très clairement ni juridiquement ce qu'est un réfugié. Cette première loi a surtout pour objectif finalement de s'intéresser à la domiciliation des étrangers en France. Et là, on retrouve une préoccupation essentielle, comment on va finalement les diriger sur le territoire français et éviter leur regroupement. Cette loi de 1832 va donner lieu à de très âpres débats à la Chambre des députés. Hein, entre ceux qu'on appelle les partisans de la résistance, qui sont donc plutôt du côté de la droite, et qui sont défenseurs de cette loi qui sera considérée en revanche par ceux qu'on appelle les partisans du mouvement, hein, plutôt du côté de la gauche pour simplifier, qui sont au contraire opposés à cette loi qui est jugée liberticide.
Les immigrés polonais en particulier se portent en avant des protestataires.
Oui, les Polonais se portent en avant des protestataires. Ils sont les plus nombreux aussi à écrire des pétitions contre cette loi entre 1832 et 1834, hein, puisqu'il y a une autre loi encore qui va plus loin en 1834, qui va même pénaliser en fait le comportement des réfugiés qui n'obéiraient pas à l'assignation à résidence.
Il est intéressant de reprendre les propos du Premier ministre de l'époque, Casimir Perier, qui dit à la tribune « Nous avons vu affluer sur notre sol un grand nombre d'étrangers que des événements politiques auxquels ils avaient pris part forçaient d'abandonner leur patrie. Non content, ajoute Casimir Perier, non content de leur donner un asile, la France a voulu soulager leur malheur. Et pour satisfaire à ce vœu, les sacrifices ne lui ont pas coûté. » Là, on est dans la ligne de la tradition révolutionnaire. Mais il ajoute « Messieurs, ce n'est point la politique, c'est l'humanité seule qui sollicite et qui doit accorder les subsides que nous vous demandons. » Casimir Perier rebondit encore en disant « La France n'est la patrie que des Français. » On voit une inquiétude. « La France n'est pas, comme on dit, tour à tour belge, italienne, espagnole. Elle est française et comme telle, sans doute, elle est bienveillante et secourable. Mais de sa part, c'est un sentiment et ce n'est pas un système. » Comte d'Argout, ministre de l'Intérieur, un peu plus tard, reprend exactement le même argumentaire. La France ne donne pas des subsides aux opinions, mais aux infortunes de ses étrangers. Elle doit attendre d'eux qu'ils respectent son repos comme elle respecte leur malheur. Il me semble qu'on pourrait entendre exactement cette phrase à la tribune de l'Assemblée nationale actuellement.
Oui, c'est une phrase qui fait écho avec les débats qu'on peut avoir aujourd'hui, qui nous montre en effet qu'on veut justifier, non pas par une affinité politique particulière avec une cause hein, spécifique, mais qu'il s'agit effectivement de subvenir aux besoins de ces étrangers qui ont subi une infortune liée à leur engagement politique ou religieux.
Une des manières de réguler la présence des étrangers venus pour des raisons politiques, c'est de créer le moyen qu'il s'engage dans l'armée. Et la Légion étrangère, on ne sait pas toujours, est le fruit de l'imagination de Louis-Philippe et des siens et date de 1831.
Voilà, un an avant la grande loi sur les réfugiés de 1832, on avait déjà légiféré en partie sur la question des réfugiés, puisqu'en fait, la loi qui porte création de la Légion étrangère en 1831 a été pensée initialement pour répondre à un problème à la fois économique et politique, qui est le désœuvrement des réfugiés politiques installés en France, qu'on considère comme étant très nombreux, et comme étant aussi à la charge du pays. Et là, on retrouve bien sûr des échos avec l'actualité, avec effectivement certains hommes politiques, certaines femmes politiques qui estiment que la France ne peut pas donner assistance à tous les malheureux venus de tout le monde entier et qu'il faut une contrepartie. Et donc là, la contrepartie qui a été trouvée initialement, c'est effectivement de les engager dans un corps spécial qui est conçu pour être envoyé à l'outre-mer et plus précisément pour être envoyé en Algérie, donc pour servir de but simultané, à la fois permettre la colonisation algérienne, qui est alors en pleine élaboration, en pleine ébullition, après la prise d'Alger en 1830, mais également, finalement, soulager la métropole, soulager les finances publiques d'un poids bien trop lourd que lui font subir les étrangers venus pour motifs politiques.
Il y a à l'époque, d'autre part, une assistance matérielle aux immigrés pour des motifs politiques. Ce qui d'ailleurs a fait dire à l'historien Gérard Noiriel, qui a étudié cette question sur la longue durée, la République face au droit d'asile, qu'il y a contrôle par l'assistance, puisque quand les émigrés, les réfugiés, les proscrits venus en France viennent demander leur aide, on sait où ils sont.
Oui, Gérard Noiriel a en effet montré que c'est en fait par l'attribution de ces subsides qu'on va permettre aussi aux autorités de mieux contrôler ces étrangers venus pour motifs politiques. Mieux les contrôler parce que, en échange d'une assistance financière, on leur délivre des bulletins individuels de réfugiés. Je rappelle qu'il n'y a pas encore de carte d'identité, il n'y a que des passeports à cette époque, mais qui sont aisément falsifiables encore. On en a des traces dans des archives très très nombreuses. Et le bulletin individuel de réfugiés permet finalement de mieux cerner qui est où et permet également de voir la dimension familiale de cet exil, puisque sur le bulletin individuel, on inscrit également les enfants et les femmes. Je crois que c'est important de le dire aussi. Donc contrôle par l'assistance, un contrôle également qui est un contrôle finalement à géométrie variable. Il faut bien rappeler qu'on n'assiste pas de la même manière les Polonais, les Espagnols et les Italiens, par exemple, sous la monarchie de Juillet. Et on n'assiste pas non plus de la même manière les membres des élites ou encore les simples domestiques ou les simples paysans qui auraient participé à ces exils politiques.
On parle beaucoup aujourd'hui des expulsions de ceux qui n'obtiennent pas de l'OFRA, c'est-à-dire l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'obtiennent pas de la Cour nationale du droit d'asile auprès de laquelle ils peuvent faire appel, qui n'obtiennent pas le droit de jouir du droit d'asile et qui sont expulsés. Dès ce moment-là, il y a beaucoup d'expulsions. Je pense aux mémoires de Gisquet, le préfet de police, qui en parle longuement, le préfet de police sous la monarchie de Juillet.
Oui, les expulsions sont déjà un moyen de contrôle a posteriori, pourrait-on dire.
Longtemps avant Leonarda.
Longtemps avant Leonarda, l'expulsion est un moyen de contrôle, un moyen de sélectionner qui a le droit de rester ou pas. Il faut bien voir qu'il n'y a pas de demandeurs d'asile dans la France du 1er 19e siècle. Il n'y a que des réfugiés qui obtiennent ou non l'assistance, mais qui globalement sont autorisés à rester sur le territoire français.
Et qui décide d'accorder l'assistance ?
Alors, qui décide d'accorder l'assistance, c'est une question assez compliquée, puisque, en fait, après la loi de 1832, on va mettre en place ce qu'on appelle des commissions de révision des titres de réfugiés. Ces commissions, elles vont se tenir à une échelle départementale et elles vont être chapeautées à une échelle centrale par un comité relevant du ministère de l'Intérieur. Et dans ces commissions, on va être amené donc à faire parler les réfugiés et à leur demander finalement de mettre en récit l'origine même de leur migration. Et à cet égard, on retrouve des choses extrêmement semblables avec l'actualité, puisqu'aujourd'hui, les demandeurs d'asile doivent aussi mettre en récit leur propre parcours et apporter des preuves. Et finalement, on voit aussi que la question de la preuve, même si pour le 19e siècle, c'est encore plus compliqué puisque le recours à l'écrit est encore plus complexe, mais la question de la preuve se pose à peu près dans les mêmes termes. Comment savoir qui est un vrai réfugié ou un mauvais réfugié ? C'est la question fondamentale qui se pose. À cet égard, on va beaucoup utiliser le témoignage oral de compatriotes qui vont permettre de témoigner qu'un tel était bien dans les rangs de l'armée polonaise, par exemple, qui a traversé la Prusse à pied et qui est arrivé en France à l'hiver 1831, par exemple.
En même temps, l'administration se méfie des effets de solidarité dans les témoignages oraux. Ils préfèrent l'écrit, mais l'écrit, c'est très difficile à l'époque déjà et aujourd'hui encore, lorsqu'on est parti dans des conditions dramatiques de son pays, de pouvoir produire des passeports. Il y a une autre donnée importante, mais qui concerne cette fois la deuxième partie du 19e siècle en France, c'est l'arrivée avec Bertillon, avec les fichiers de la police, d'un effort pour encadrer de façon beaucoup plus systématique cette population d'immigrés.
Avec le second 19e siècle, on passe effectivement dans des logiques tout autres, puisqu'on va essayer, bien sûr, d'avoir recours à l'anthropométrie, à la photographie, pour mieux connaître hein, ces étrangers qui passent sur le sol français. Je pense notamment aux Italiens anarchistes, par exemple, à la fin du 19e siècle. Mais au premier 19e siècle, on n'a pas encore tous ces outils. Et on voit très fréquemment dans les sources des préfets qui se plaignent du fait qu'on a des signalements extrêmement différents, des gens qui se déguisent, hein, qui parviennent aussi à se procurer de faux passeports et qui passent finalement à travers les mailles du filet qui sont extrêmement larges encore.
Un autre moment est essentiel par rapport à notre actualité d'aujourd'hui, c'est évidemment la révolution de 1848 qui instaure la Seconde République en France. On a un très bref moment de générosité et puis ensuite, après les journées de juin, qui sont des journées qui opposent au monde ouvrier une bourgeoisie effrayée, à partir de juin, au contraire, un infléchissement très net en faveur de la rigueur. Et c'est dans cette conjoncture que Adam Mickiewicz, dont vous parliez tout à l'heure, qui est une figure éminente de l'immigration polonaise, écrit à Michelet et à Quinet, dans les termes que vous allez entendre, c'est une lecture d'Henri Poirier, extraite des Matins de France Culture, le 26 avril 1990. Mickiewicz.
Aux citoyens Michelet et Quinet. Citoyens, l'établissement de la République française inaugure l'ère de la liberté des nations. Vous êtes de ceux qui avaient pressenti cette ère. Vous avez travaillé à en préparer l'avènement. Les Français jouissent déjà de la plénitude de leur liberté politique. Vos frères polonais sur la terre de France sont encore esclaves. Une législation inique livre leur sort à l'arbitraire. Vous avez vu l'exemple de cet arbitraire frappant un de vos collègues à titre de Polonais. Vous y avez résisté autant qu'il était en vous. C'est à vous de prendre maintenant l'initiative d'une mesure générale dans l'intérêt de tous les Polonais. Présentez, citoyens, au gouvernement provisoire de la République une pétition pour demander l'abolition immédiate des lois et règlements qui oppriment les réfugiés polonais. En faisant déclarer les Polonais égaux à vous devant la loi, vous accomplirez le premier acte de la délivrance politique de la Pologne. Salut et fraternité, Adam Mickiewicz.
Alors, Delphine Diaz, ce texte évoque chez vous quel rapprochement avec aujourd'hui ?
Alors ici, ce texte, on est vraiment au tout début hein, du gouvernement provisoire de la République française qui s'est instauré à la fin du mois de février 48. Et on voit qu'on va essayer d'infléchir, en tout cas du côté polonais, les lois sur les réfugiés en essayant finalement de faire coïncider les ambitions républicaines de ce nouveau régime avec la situation des réfugiés. Mickiewicz demande en effet l'abrogation de toutes ces lois qu'on a un petit peu évoquées tout à l'heure, hein, celle de 1832, celle de 1834. Il demande une libération finalement de ces réfugiés assignés à résidence. Et puis finalement, il l'obtient. Et on constate un afflux massif hein, dans la capitale qui là aussi va très vite finalement éveiller de nouvelles inquiétudes hein, pour les dirigeants de la Seconde République. Donc on voit bien que même en régime républicain, hein, la tradition d'accueil, hein, justifiée par des motifs idéologiques cette fois-ci, et non pas du tout par une charité chrétienne, pose malgré tout des problèmes et on retrouve là aussi hein, une aporie qu'on vit tous les jours hein, au cœur de notre 5e République.
Dès le mois de juillet, c'est-à-dire quelques semaines après les journées de juin et les barricades sanglantes de Paris, on voit le ministère des Affaires étrangères envoyer des instructions à Vienne, en Autriche, en disant « Oh là là, ne donnez pas trop de passeports à ceux qui voudraient venir en France ». C'est déjà la politique des visas.
Oui, on a un resserrement de l'attribution de ces passeports à l'étranger, hein, attribués par les consulats, par les ambassades, permettant aux étrangers de venir en toute sécurité en France. Hein, et on voit ce resserrement se faire vraiment dès l'été 1848 et s'accentuer encore de manière très, très forte en 1849, où on va permettre le recours à l'expulsion de manière beaucoup plus large. Cette fois-ci, ce n'est pas seulement le ministère de l'Intérieur qui va pouvoir décider de l'adoption d'arrêtés d'expulsion, mais ce sont aussi les préfets des départements frontaliers, ce qui permet en fait finalement aussi un poids plus important de l'arbitraire dans ces décisions d'expulsion.
J'observe qu'en présentant la loi, Bernard Cazeneuve, notre ministre de l'Intérieur, a mis en lumière la nécessité de mieux distinguer les cas particuliers et d'aller plus vite aussi, et d'éviter l'inégalité dans le traitement d'un lieu à l'autre. Est-ce que c'est un souci de ces années-là déjà ?
Le souci des hommes de 48, c'est d'abord de traiter de manière un peu plus égale, égalitaire, les différentes nationalités accueillies. Hein, puisque, par exemple, du point de vue des subsides attribués aux réfugiés, on va abolir les distinctions de niveau en fonction des origines nationales. Et effectivement, c'est un problème qui se pose de manière récurrente encore aujourd'hui. On voit que certaines associations s'opposent, par exemple, au nouveau projet de loi sous l'argument que ce projet de loi va mettre en place des procédures accélérées pour certaines origines, hein, notamment pour les personnes venant de pays d'origine sûre. Et cette question, effectivement, du traitement équitable ou pas selon les nationalités est déjà, en fait, au cœur des problématiques de la Seconde République.
Je voudrais maintenant, Delphine Diaz, que dans cette émission consacrée à la France terre d'asile au 19e siècle, dans le climat de la loi actuellement en discussion, il s'agit, a dit le Premier ministre Manuel Valls, de rénover un système à bout de souffle, du point de vue de l'inégalité des traitements et de la lenteur. Je voudrais que nous en venions, pour la dernière partie de notre conversation, à la manière dont vivaient ces exilés, ces proscrits en France, à Paris, mais aussi en province. Comment travaillaient-ils? Comment se réunissaient-ils? Quels étaient les lieux de sociabilité?
Si l'on parle des lieux de sociabilité, alors ils étaient multiples. Dans la capitale, pour les rares réfugiés qui avaient le privilège d'être installés à Paris, on avait par exemple la fréquentation des salons libéraux. Je pense par exemple au salon de Lafayette, au salon également d'une princesse en exil qui s'appelle la princesse Belgioioso du côté italien. Donc il y a plusieurs salons qui sont particulièrement ouverts aux réfugiés venus de toutes les origines.
Généralement des immigrés qui sont riches.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut bien différencier cette situation des exilés à Paris, hommes de lettres, journalistes, qui ont souvent les moyens de subvenir à leurs besoins, de la situation des réfugiés en province dans les dépôts, où la réalité est beaucoup plus morne. On a par exemple des témoignages sur des réunions d'exilés espagnols qui jouent aux cartes désespérément, qui s'ennuient et qui racontent leur ennui au fil de leur mémoire.
On connaît ces lieux aussi par la littérature, Balzac, Stendhal.
Stendhal, par exemple, décrit l'irruption d'un comte libéral d'origine italienne dans le salon du duc de Ré. Donc c'est un passage important où on voit effectivement cet auteur d'une conspiration manquée, ridicule, absurde, c'est le terme qui sont employés dans le texte du Rouge et le Noir, pour effectivement mentionner le fait que cet exilé est un exilé condamné à mort. Donc condamné à mort, c'est la condamnation à mort, la seule chose qui ne s'achète pas, selon Mathilde de la Mole, qui permet de faire écho aussi avec la situation future de Julien Sorel.
Balzac aussi nous apporte des informations dans la comédie humaine.
Oui, Balzac, par exemple, va forger le personnage du Polonais Steinbock, qui est un aristocrate polonais, qui arrive en France en passant lui aussi par l'Allemagne à pied, qui, de son statut d'aristocrate, va finalement déchoir socialement, puisqu'il en est réduit au statut de prince de l'outil, comme le dit la cousine Bette. Ce qui montre que ces réfugiés, parfois provenant des élites aristocratiques, sont contraints d'embrasser des professions tout à fait manuelles, qui sont très différentes de celles qu'ils exerçaient auparavant. Alors, c'est pas forcément le cas de tous. Il y en a aussi beaucoup qui, venant de milieux, par exemple, littéraires, vont être amenés à devenir professeurs, maîtres de langue, apprendre leur langue d'origine à des Français, par exemple.
Il est intéressant de faire une sorte d'inventaire des métiers que ces immigrés politiques en France peuvent exercer pour survivre.
Cet inventaire, il est en partie possible, rendu possible par les sources. On a en fait beaucoup d'archives parlementaires là-dessus, beaucoup de débats parlementaires et d'enquêtes qui permettent de faire un état des lieux, y compris statistique, de ces professions embrassées par les réfugiés et des professions embrassées par les réfugiés qui disposent d'une assistance financière de l'État. Et là, j'insiste parce que c'est aussi un point qui nous renvoie à l'actualité. On a à l'époque la permission accordée aux réfugiés qui bénéficient de l'assistance de l'État d'exercer une profession rémunérée. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque un demandeur d'asile doit effectivement bénéficier de l'allocation temporaire d'attente, n'est pas autorisé à intégrer le marché du travail aussi vite qu'il le voudrait. Et c'est précisément l'une des revendications qui est portée aujourd'hui par nombre d'associations en faveur des droits des réfugiés en France, par opposition à l'Angleterre, par exemple, où il est beaucoup plus facile de s'intégrer dans ce marché du travail.
Alors qu'à l'époque, on pouvait à la fois avoir des subsides et travailler.
Voilà, on pouvait à la fois finalement bénéficier de l'assistance financière de l'État et exercer une profession rémunérée. Alors, sous certaines conditions, il ne faut pas non plus que la rémunération excède le montant de ces subsides. On va peu à peu adopter effectivement des réglementations plus strictes en la matière au fil du temps. Des réglementations qui vont encore s'alourdir, notamment sous le Second Empire, où on va supprimer les subsides pour ceux qui travaillent.
Aujourd'hui, on voit les communautés d'exilés en France souvent se rassembler pour des manifestations dans telle ou telle occurrence, lorsqu'il y a un grand événement qui concerne leur pays d'origine. Souvent, alors, ils se retrouvent au Trocadéro, devant telle ou telle ambassade. À l'époque, déjà, il y avait ce type de manifestation.
Oui, il y avait ce type de manifestation, à la différence qu'à cette époque-là, il y avait plus de contacts entre ces différentes nationalités. Pour reprendre les termes de Gilles Pécou, hein, rien n'est plus international que la nation au cours de ce 19e siècle.
Pécou, qui est l'historien de l'Italie.
Oui, historien de l'Italie, siècle, oui. Du Risorgimento, et qui nous montre finalement qu'on avait beaucoup plus de passerelles établies entre ces différents combats nationaux au 19e siècle, peut-être qu'aujourd'hui. On voit en effet, par exemple, se former des associations qui vont finalement transcender les clivages nationaux. On voit aussi des moments de sociabilité, comme les banquets, hein, qui vont être organisés dans des dépôts de réfugiés au profit d'Espagnols, de Polonais et d'Italiens, hein, par-delà même ces frontières à la fois nationales et linguistiques.
Et puis, il y a les cortèges funéraires, c'est très important. Comme ça l'était d'ailleurs pour les exilés français pendant le Second Empire, en Angleterre ou ailleurs, quand l'un d'entre eux mourait. On l'a bien vu avec le cas de Victor Hugo, qui fait des grands discours à ces occasions. De la même façon, en France, ces enterrements sont des moments de réunion, par exemple pour accompagner un cercueil jusqu'au Père Lachaise.
Oui, les enterrements sont un moment de réunion, un moment d'opposition aussi, hein, comme l'a montré Emmanuel Furex, hein, dans sa thèse. Et pour les réfugiés, c'est effectivement le cas aussi, hein. On se rassemble par communauté pour défendre la communauté patriotique imaginée, hein, à travers ces cortèges funéraires, à travers ces discours nécrologiques prononcés dans le sein même des cimetières. Donc c'est une occasion pour les réfugiés de se rassembler, de se compter aussi, puisque l'assistance, hein, permet aussi de symboliser, hein, le nombre de réfugiés qui sont présents en France et à Paris tout particulièrement.
Et là, comme aujourd'hui, vous retrouvez vos sources policières, parce que naturellement, on envoie des commissaires de police s'efforcer de dénombrer ceux qui se rassemblent de la sorte et de distinguer leurs leaders.
Oui, distinguer leurs leaders, repérer aussi ceux qui viennent participer à ces moments, alors même qu'ils ne sont pas censés être en France, hein, ceux qui sont expulsés et qui n'ont pas quitté le territoire français. Hein, c'est aussi une occasion de repérer ces indésirables et de les dénoncer parfois.
Parmi les immigrés en France, on pourrait en choisir plusieurs qui sont célèbres. J'ai choisi Heinrich Heine, qui est un des plus célèbres et qui est arrivé à Paris depuis Berlin au début de la monarchie de Juillet. Vous allez voir qu'il y a une certaine forme de sociabilité puisqu'il fait sa cour à une fleuriste.
Comment, après la révolution de Juillet, j'ai émigré à Paris où je vis depuis tranquille et content. De tout ce que j'ai fait et enduré sous la Restauration, je parlerai également quand les temps permettront que les intentions des intéressés de ce récit ne soient pas en but aux doutes et aux soupçons. J'en avais beaucoup fait et enduré, et lorsque le soleil de la Révolution de Juillet se leva sur la France, j'étais en fin de compte très fatigué, et j'avais besoin de détente. Par ailleurs, l'air du pays devenait de jour en jour un peu plus malsain pour moi, et il fallait sérieusement que je songe à changer de climat. À la même époque, je fis la connaissance d'un commis voyageur français qui faisait du démarchage chez nous pour une maison de vin, et qui n'avait pas assez de mots pour me faire entendre comment on vivait joyeusement aujourd'hui à Paris. Que le ciel y résonnait de 1000 violons, qu'on y chantait du matin au soir la Marseillaise, et en avant marchons, et Lafayette aux cheveux blancs, et qu'à tous les coins de rue on avait écrit « Liberté, égalité, fraternité ». Et n'oubliez pas non plus de chanter les louanges du champagne de sa maison mère. Il me donna tout un lot de cartes de visite à son adresse et me promit des lettres de recommandation pour les meilleurs restaurants de Paris, dans l'hypothèse où je voudrais visiter la capitale pour me divertir. Et comme j'avais réellement besoin d'un divertissement, je décidai de partir pour Paris. Je me hâtais de rendre visite au restaurant auquel j'étais recommandé. Ces restaurateurs m'assurèrent qu'ils m'auraient également bien reçu sans mes lettres de recommandation, car j'avais une allure honnête et distinguée qui était à soi-même sa propre recommandation. Jamais un gargotier allemand ne m'a dit pareille chose, quand bien même il l'aurait pensé. Ces mufles-là pensent qu'il faut passer sous silence les choses agréables à entendre et que leur franchise allemande leur fait un devoir de nous dire en face que des choses déplaisantes. Il y a dans les coutumes et même dans la langue des Français tant de cette flatterie délicieuse qui coûte si peu et qui fait cependant tant de bien quand on la savoure. À mon arrivée, mon français accrochait quelque peu, mais au bout d'une demi-heure d'entretien avec une petite fleuriste du passage de l'opéra, mon français, qui s'était un peu rouillé depuis la bataille de Waterloo, redevint coulant. Je me réinstallais en bégayant dans les conjugaisons les plus galantes et expliquais très intelligiblement à cette petite tout le système de Linné, où les fleurs sont classées selon les étamines. Pour sa part, elle suivait une autre méthode. Elle les classait en fleurs qui sentent bon et fleurs qui sentent mauvais. Et si je me souviens bien, elle observait la même classification pour les hommes.
C'est une lecture qui provient des Chemins de la connaissance, le 27 mai 1981, sur France Culture. Alors, Delphine Diaz, sur un ton qui se veut plaisant et qui d'ailleurs y réussit assez bien, Heine parle pour beaucoup d'autres immigrés venus profiter de l'accueil de la France.
Venu profiter du soleil de juillet, j'aime tout particulièrement cette métaphore héliotropique pour justifier un exil qui, pour Heine, est un exil volontaire. C'est vraiment lui qui a pris le parti de venir s'installer en France. Heine arrive à Paris en 1831 et reste en France jusqu'à sa mort en 1856, sous le Second Empire. Heine est en partie, bien sûr, représentative de cet exil littéraire, intellectuel qui arrive à Paris, de aussi cette rencontre qui s'effectue entre Français et étrangers à travers les flux d'exil politique, même si, bien sûr, je rappelle qu'il n'est pas notamment représentatif de tous ces réfugiés assignés à résidence dans les dépôts provinciaux, pour lesquels la réalité est un petit peu différente, malgré tout.
Nous avons, dès ce moment-là, le soutien de comités français pour défendre les réfugiés qui annonce déjà France Terre d'Asile, qui est née, je crois, à l'occasion de l'oppression des Chiliens après Allende par le régime de Pinochet. Dès ce moment-là, il y a cet ensemble de tout ce système de sympathie et en même temps, dans la population française, des manifestations de xénophobie, en particulier dans le monde ouvrier.
Oui, l'accueil est en effet assez ambivalent. Les années 30 voient l'essor de ces comités constitués pour défendre des exilés étrangers et en particulier, j'insiste, pour défendre les réfugiés polonais. C'est la vogue des comités pour la Pologne qui vont peu à peu se reconvertir après l'échec de l'insurrection de Varsovie, qui vont se reconvertir dans une aide matérielle, concrète, apportée aux réfugiés. Ça veut dire qu'on va leur donner des vivres, on va leur donner des habits quand ils en manquent, on va essayer de les soigner quand ils sont malades, avec une dimension, bien sûr, politique dans cette volonté de solidarité, dimension politique qui est revendiquée. Ce sont des libéraux qui s'engagent pour la Pologne et pour les réfugiés polonais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ces comités éclore dans toute la France. Et ça commence en 1831 avec le grand comité central fondé par Lafayette. Et peu à peu, c'est une véritable vogue. On en voit apparaître dans toutes les petites localités françaises qui sont en contact avec des réfugiés polonais. Malgré tout, on parle un petit peu de xénophobie aussi, tout à l'heure. Bien sûr, cet enthousiasme populaire ne va pas forcément durer dans le temps et ne va pas concerner tous les réfugiés accueillis en France. Il faut bien le dire.
Je relève qu'en 1847, Rang, qui est un écrivain public établi à Lyon, adresse une pétition à la Chambre des Pairs du régime de Louis-Philippe. Finissant, il signale, je cite, la grande misère de la classe ouvrière à Lyon, en particulier les canuts, qui s'expliquerait selon lui par la présence envahissante des ouvriers étrangers, mais par l'arrivée massive des réfugiés. Il cite piémontais, savoyards, espagnols, polonais, tyroliens, sikhs, tyroliens, allemands de toutes les provinces, prussiens et autrichiens qu'il juge indûment secourus par le gouvernement alors que le français, dit-il, est dépourvu de travail et de nourriture.
Oui, avec l'entrée dans la crise économique de 1846, on voit fleurir ce type de texte adressé aux autorités françaises pour dire qu'il n'y a pas de raison de secourir ces réfugiés au motif que les Français ne sont pas secourus par l'État à cette époque. C'est effectivement la question de la préférence nationale qui s'élabore peu à peu à travers ces pétitions, à travers ces discours. Le thème de la préférence nationale qui reviendra bien sûr au centre du débat politique français à partir du milieu des années 80 et à partir des premières victoires électorales du Front National.
Décidément, vous avez contribué dans cette émission, Delphine Diaz, à confirmer que les ressemblances pouvaient l'emporter sur les dissemblances de ce début du 19e siècle jusqu'à nos jours. Merci d'avoir été à mon micro. Je donne le titre de votre livre vers lequel je renvoie tous nos auditeurs pour aller plus profond dans cette réflexion. Un asile pour tous les peuples. Vous avez mis un point d'interrogation. Exilés et réfugiés étrangers en France au cours du premier 19e siècle, paru chez Armand Collin tout récemment en 2014. Vous pourrez, vous le savez, retrouver une bibliographie complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés, paroles et musique. Et vous pourrez également écouter, réécouter et télécharger cette émission. Samedi prochain, nous parlerons des États-Unis et aux États-Unis de la police et des Noirs. Vous voyez que c'est un sujet qui n'est pas moins d'actualité, Delphine Diaz, que celui que nous avons traité ensemble ce matin. Et je recevrai pour cela Pape Ndiaye. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée avec le précieux concours de Nathalie Lempereur, de Jeanne Guéroux aussi, et réalisée par Patrick Molinier, avec Éric Boisset à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque, et Sophie Gillery pour les archives de l'INA. Et dans quelques instants, je vais passer le témoin à Dominique Rousset, comme chaque samedi, pour l'économie en question.